Vous êtes bien sur le 94 FM, midi 15, vous écoutez 3 en 1.
C'est beau, c'est agréable, moi c'est ma balade phare.
Quant à vous aujourd'hui, votre périple en Bretagne, c'est une grande région française, c'est une région qui comporte combien de départements, monsieur ?
Il y a les
villages.
On n'a pas de déboire.
L'agriculteur est en train de crever. Sincèrement, toute production confondue, toute filière.
La rue répond.
Résistance. De venir de Paris, de Lyon, de Bordeaux, tout le monde sait qu'à Rennes, il se passe quelque chose.
Bonjour à vous et bienvenue dans 3 en 1, votre rendez-vous d'information locale et d'actualité sur Canal B. Cette semaine, vous nous retrouverez lundi et mercredi à 12h15, mais aussi en rediffusion les lendemains à 8h15. Aujourd'hui, au sommaire de cette émission, l'interview du jour nous emmènera en Russie. Place à Paul Gogo, correspondant à Moscou pour le journal Ouest France depuis plusieurs années. Il nous parlera de son expérience de journaliste étranger en Russie, des particularités du conflit entre la Russie et l'Ukraine et surtout de la désinformation qui règne sur ces sujets de la Russie à la France. Et vous faites peut-être le pont en ce lundi 10 novembre, peut-être avez-vous même la chance d'être parti de chez vous quelques jours pour prendre l'air. Ces petits séjours vous semblent peut-être anodins, mais ils restent un privilège, notamment pour les enfants. Cet été, il est elles ont été 5 millions en France à ne pas pouvoir partir en vacances et les dispositifs gérés par des associations qui permettent de proposer tant bien que mal des séjours aux familles n'en ayant pas les moyens voient leurs subventions coupées dans l'actuel projet de loi de finances. On en parle en plateau avec Manon Potier qui s'est entretenue avec Kevin Boiveau, directeur général de l'association bretonne à Roeven. En attendant et pour commencer l'édition d'aujourd'hui, place à l'info du jour. Cela ne vous aura pas échappé, la COP30, la conférence des Nations Unies sur le climat, s'ouvre aujourd'hui à Belém, au Brésil. Elle s'ouvre 10 ans après la signature des accords de Paris, dont l'objectif principal est de maintenir l'augmentation de la température moyenne mondiale en dessous de 2 degrés, au-dessus des niveaux pré-industriels. En parallèle de la COP, et ce depuis plusieurs années, des rassemblements citoyens, parfois appelés alter-COP ou contre-COP, s'organisent en France et partout dans le monde aussi. Le but de ces rassemblements, c'est parfois de suivre les négociations en cours au niveau de l'ONU, mais parfois aussi de se réunir pour s'organiser au niveau régional ou local, sans trop compter sur les COP pour faire avancer la lutte pour une action climatique juste et rapide. Dans cet esprit, si vous voulez savoir comment les gens autour de chez vous s'organisent au quotidien pour faire valoir leurs revendications, parfois écologiques mais pas que, et si vous voulez faire connaître les vôtres aux candidats et candidates aux prochaines élections municipales, la campagne Mairie.me vous propose de le faire sur leur site internet. Vous pouvez vous rendre sur la plateforme mairie-du-milieu-mi.org pour donner votre avis sur ce qui vous importe le plus. Vos réponses permettront au collectif Transition Citoyenne qui est à l'origine de cette campagne de défendre ce qui compte pour vous auprès des candidats et candidates à la mairie. De nombreux partenaires soutiennent cette initiative, dont France Nature Environnement, mais aussi Terre de Liens, Amolégé ou Attaque. Et pour en revenir à la COP, j'en profite pour vous l'apprendre peut-être, une nouvelle émission a rejoint la grille des programmes de Canal B cette année, c'est l'émission Vert des Terres, une émission qui défend les luttes écologiques en Bretagne et partout dans le monde. Vous la retrouverez une fois par mois, le vendredi de 13 à 14h, et la prochaine émission, ce sera ce vendredi 14 novembre. C'était une petite reprise par Amil and the Sniffers de Born to be Alive pour vous réveiller si jamais vous étiez encore dans le brouillard. Pour l'interview du jour, direction la Russie. Paul Gogo, vous êtes journaliste de presse écrite et vous êtes le correspondant de Ouest France à Moscou depuis 8 ans. Bonjour.
Bonjour.
Vous avez couvert et vous couvrez encore aujourd'hui le conflit russo-ukrainien pour le quotidien régional Ouest France, mais aussi pour d'autres médias comme Le Parisien et BFM TV. Vous aviez également résidé plusieurs années en Ukraine avant de résider en Russie. On vous invite aujourd'hui dans 3 en 1 pour parler des problématiques qui traversent un ou une journaliste qui couvre une actualité internationale pour un quotidien régional français et aussi pour parler des particularités du conflit russo-ukrainien qui dure depuis plus de 3 ans maintenant. L'invasion de l'Ukraine par la Russie a eu lieu en 2022. À cette époque, vous habitiez en Russie depuis quelques années déjà. Alors, comment s'est passé à Moscou le premier jour de la guerre pour vous ?
Eh bien, il s'est passé d'une façon tellement étrange que, en fait, j'étais même pas à Moscou. C'est-à-dire que moi, après mes quelques années en Ukraine, j'ai été interdit d'accès dans le Donbass côté russe. Et quelques jours avant le début de cette offensive, je ne l'explique toujours pas aujourd'hui, mais la Russie a accepté quelques journalistes à Donetsk. Et donc, le jour où cette offensive est lancée, eh bien, en fait, moi, ça fait déjà quelques jours que la Russie m'a autorisé à me rendre dans le Donbass, à Donetsk. Et donc, je suis à Donetsk, ce qui rend la chose encore plus, d'autant plus intéressante d'un point de vue journalistique, mais un peu effrayant aussi, parce qu'on a l'impression d'être au cœur de cette offensive, d'être au cœur des combats. Et donc, ça, oui, c'est quelque chose qui était assez étrange, sachant que la veille de mon départ pour Donetsk, donc une semaine, 10 jours avant, eh bien, j'avais assisté depuis l'ambassade de France à Moscou à la visite d'Emmanuel Macron à Moscou, sa rencontre avec Vladimir Poutine, qu'on a tous gardé en tête avec cette longue table assez impressionnante, et surtout un président russe qui avait été très froid avec lui.
Tout tourne à la guerre en quelques jours. Quand vous revenez à Moscou, et puis peut-être au fil des semaines qui suivent, que voit-on en fait de la guerre en Ukraine lorsque l'on habite à Moscou ?
C'est vrai que les jours qui ont suivi, donc je suis rentré à Moscou assez rapidement après le début de cette offensive, et les jours qui ont suivi étaient assez intéressants parce que personne ne comprenait rien à ce qui se passait. C'est-à-dire que pour les Russes, et c'était même un peu rassurant parce qu'on a été nombreux à pas trop voir venir cette offensive sur l'Ukraine. Et pour les Russes, eh bien, ça paraissait autant inenvisageable que nous, l'idée que la Russie puisse s'attaquer de cette façon-là à l'Ukraine parce que, alors ça c'est la rhétorique russe, mais il y a cette idée que les Ukrainiens sont des frères et que du coup c'est impossible de faire la guerre à ses frères. Et puis très rapidement, des lois ont été créées pour justement interdire tous les appels à la fin de cette guerre, qu'on appelle opération militaire spéciale en Russie, et justement une de ces lois interdisait l'usage du mot guerre. Et donc pour nous, ça a été un premier obstacle. Comment écrire et raconter tout ce qui se passe en Ukraine si on n'a pas le droit d'utiliser le mot guerre. Mais c'est vrai que c'est bien de le rappeler. Les Russes, eux, sont passés par vraiment plusieurs étapes. Il y a eu vraiment une incompréhension totale. Après, ils ont fait l'autruche parce qu'ils voulaient pas être mêlés à tout ça. Ils voulaient pas avoir à donner leur avis sur tout ce qui se passait. D'autant plus que donner son avis était plutôt interdit. Et puis, progressivement, le Kremlin a compris que la guerre allait durer longtemps. Et donc, il a créé une sorte de système, de rhétorique qui avait pour objectif de pousser les Russes à le soutenir dans son offensive, dans son invasion de l'Ukraine.
Quelles sont les particularités de votre métier quand il s'agit là de couvrir un conflit à distance, en l'occurrence depuis Moscou pour une zone de conflit en Ukraine, et comment vous, en tant que journaliste, vous faites pour avoir accès à des infos tangibles et vérifiées ?
Alors c'est très compliqué, ça ne va pas vous étonner, mais théoriquement, avec mon accréditation, donc ce document qui me permet de travailler en Russie, j'ai le droit de me rendre dans une partie, en tout cas, des territoires, les régions de Donetsk et Lugansk, ces territoires occupés en Ukraine. Alors, je l'ai fait à plusieurs reprises depuis 2022. Étonnamment, j'ai pu y travailler totalement librement, c'est-à-dire que j'ai été interrogé par le FSB, les services de sécurité russes, à chaque fois que j'ai voulu passer la frontière ou ce que je considère comme l'ancienne frontière entre la Russie et l'Ukraine. Et ensuite, une fois côté occupé de l'Ukraine, eh bien, j'étais totalement libre de travailler. Avec un problème principal, c'est que même en étant libre, en fait, ça ne change pas grand-chose parce que beaucoup de gens qui soutenaient l'Ukraine ont été ou bien arrêtés ou bien expulsés des territoires ou bien tout simplement ont peur de parler. Donc c'est compliqué parce que vous allez rencontrer que des fans du Kremlin qui sans nuance, qui vont voilà défendre vraiment Vladimir Poutine, en sachant que les gens qui s'y opposent sont présents, ils sont là partout autour de vous, mais ils vont pas vous parler. Finalement, alors c'est un peu bizarre de dire ça, mais notre couverture de Donbass, elle repose sur ce que nos confrères font côté ukrainien, hein, tout simplement parce que par exemple quand des gens, des Ukrainiens de zones occupées se font torturer, arrêter, voire assassiner par les Russes, eh bien finalement ce sont les proches qui sont côté ukrainien qui vont être capables de raconter ce genre de choses et de témoigner de tout ça. Les soldats russes qui vont se faire qui vont être arrêtés sur le front, qui vont être faits prisonniers sur le front, eh bien leurs témoignages, ils sont très intéressants, mais ils sont récoltés côté ukrainien, parce que côté russe, évidemment, tout ça, on n'en parle pas. Et j'essaie de trouver, côté russe, des petites miettes qui me permettent de raconter ce conflit, et notamment, je trouve que le plus intéressant pour moi, c'est d'essayer d'aller assister de temps en temps à des enterrements de soldats russes. Tout est fait pour nous empêcher de le faire, et donc là, bah, ces enterrements, ça dit des choses sur le conflit, l'attitude des proches, l'attitude des autorités aussi.
Vous avez pu voir quelle sorte d'attitude jusqu'à maintenant ?
C'est très intéressant. Il y a toujours un représentant militaire, un représentant religieux et un représentant politique. Le religieux, en gros, assure à la famille que l'homme était du bon côté de l'histoire, qu'il est mort pour la bonne cause, que Dieu est avec lui, qu'il est au paradis. Vous avez le représentant politique qui, lui, va offrir généralement, accorder une médaille à titre posthume, et puis le militaire en gros va dire la même chose. Et donc tout ça, ça encadre en fait la colère et la douleur des proches, qui de toute façon naturellement ne peuvent pas vraiment se dire que leur proche est mort pour rien ou est mort dans une guerre injuste.
Quelles sont vos difficultés lorsque vous écrivez pour un public français ? Est-ce que vous hésitez par exemple sur certaines choses, ou est-ce qu'il y a des événements ou des débats que vous avez du mal à retranscrire ?
Alors, il y a, moi, mon combat, c'est de parvenir à décrire dans mes papiers l'ampleur de la radicalité du pouvoir russe. Et donc, il y a des termes, je m'en rends compte, qui sont parfois un peu difficiles à utiliser, parce qu'il y a une tendance générale, en France notamment, mais pas que, à la tolérance vis-à-vis de la Russie, parce que plein de gens ont déjà visité la Russie, plein de gens ont trouvé que ce pays était magnifique, ce qui est le cas par ailleurs. Mais il y a une certaine tolérance et une incapacité à accepter le fait que ce soit en train de devenir un pouvoir tout simplement fasciste, en fait. Par exemple, ce mot de fasciste, c'est un mot que j'utilise là parce qu'on a le temps d'en discuter, mais que j'utiliserai moins dans un article parce que c'est pas un mot anodin, c'est un mot qui doit être expliqué. Je dois expliquer en quoi le pouvoir actuel peut se définir de cette façon-là. Et c'est la réalité. C'est-à-dire que le pouvoir actuel et toutes ses actions correspondent en tout point à la définition du fascisme aujourd'hui, mais ça prend du temps pour l'expliquer, ça prend du temps pour l'écrire. Et puis finalement, est-ce que c'est vraiment le plus important que les gens retiennent ce terme-là, je ne suis pas sûr. Donc du coup, moi, je me contente d'essayer d'expliquer dans mes articles, de décrire plutôt le fascisme plutôt que de l'expliquer. Et donc j'essaie de raconter des petites histoires qui montrent, par la censure, par les attaques contre l'opposition politique, par le manque de pluralité, la réécriture de l'histoire, l'écriture d'un roman national, l'exacerbation du patriotisme, toutes ces choses-là, en fait. Moi, je garde toujours en tête mes grands-parents qui vivent en zone ouest de France et qui suivent pas forcément les choses de très près. Et j'essaye de faire en sorte que mes petites histoires représentent des sortes de petites mises à jour de ce qu'est la Russie d'aujourd'hui auprès de gens qui n'ont pas que ça à faire, de suivre la Russie toute la journée.
Spray. feel like a bird. Spring a fit of anger in this world when I'm bad.
C'était Graffiti Palace de Perio sur Canal B, un titre qui figurait parmi les nouveautés musicales du mois d'octobre de Canal B. De retour en plateau avec Paul Gogo, il est correspondant en Russie pour le journal Ouest France et nous parle de sa couverture du conflit russo-ukrainien. Vous évoquiez tout à l'heure une certaine sympathie que les Français et Françaises peuvent ressentir vis-à-vis de la Russie. Il y a aussi la sphère complotiste française qui est friande des sujets qui concernent la Russie. De l'autre côté, la Russie, elle, a pu être accusée d'actions d'ingérence en France, notamment via les réseaux sociaux. Est-ce que depuis la Russie où vous résidez, vous ressentez cette tension ? Et est-ce que c'est aussi une variable de plus que vous devez prendre en compte dans votre manière de traiter ce conflit-là pour le public français ?
C'est un point très intéressant, c'est qu'en fait, ça fait partie du métier, mais l'existence de tous ces gens-là et de toutes ces stratégies russes nous impose vraiment de ne pas leur laisser le moindre interstice pour nous attaquer. C'est-à-dire que le moindre papier, le moindre reportage, la moindre information que je vais publier, j'ai vraiment intérêt à ce qu'elle soit totalement correcte, à ce qu'elle ne soit pas attaquable, en fait, tout simplement. Parce que je sais que tous ces gens-là nous surveillent et qu'en fait, la moindre approximation que je vais laisser dans un article, derrière, ça va être récupéré et, être accusé de propagandiste, ça, c'est quelque chose, c'est pas bien grave. Mais derrière, ça peut être utilisé de façon un peu plus concrète, on va dire, vraiment, pour expliquer que les correspondants et les journalistes de manière générale font pas bien leur boulot, ils sont dans la désinformation, qu'ils vous manipulent, nous on a la vérité vraie, c'est nous qu'il faut suivre, et il y a beaucoup de gens qui adhèrent à ce genre de choses, donc faut vraiment faire très attention. C'est intéressant parfois de voir certaines rhétoriques, certaines désinformations apparaître côté russe, et les voir réapparaître chez certaines couleurs politiques, on va dire, en France, quelques jours ou quelques semaines plus tard. Et c'est là qu'on comprend qu'il y a des réseaux liés au Kremlin qui travaillent justement à la diffusion de ces choses-là, enfin qui traduisent en gros la propagande en français et qui travaillent à leur diffusion côté français. Je suis aussi conscient que tous ces gens qui diffusent toute cette propagande russe ne sont pas payés par le Kremlin, a priori, mais que ce sont des gens qui idéologiquement se retrouvent dans le Kremlin d'aujourd'hui, dans la Russie d'aujourd'hui.
Vous serez à Rennes le 14 novembre prochain pour jouer le spectacle Journal intime, bon papier de Russie dans le cadre du cycle Face à la guerre, dialogue européen qui est organisé au Champ Libre. Le résumé de ce spectacle qui a été mis en scène et coécrit avec la compagnie Les Trois Ours évoque la propagande des uns, la haine des autres et la méfiance généralisée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cette formule, de qui et de quoi vous parlez avec cette formule-là ?
Oui, ça va être, je pense, une soirée super intéressante déjà pour moi, dans un premier temps, parce que par rapport à ce qu'on se disait, par exemple, sur la désinformation, moi je suis en recherche permanente de pouvoir raconter mon métier, raconter les choses d'une façon un peu différente, et là vraiment, je vais me retrouver face au public, et je vais raconter des anecdotes de mes reportages, de gens qui vivent dans un monde totalement parallèle, mais qui se confrontent aussi parfois à des gens qui pensent pas du tout comme eux dans leur propre pays, des gens qui subissent la guerre parce qu'ils sont contre cette guerre, et puis ils ont des proches qui peuvent mourir sur place, et puis d'autres personnes qui, elles, vont soutenir totalement cette guerre. On va faire un petit tour dans le Donbass aussi. Je vais raconter un voyage de presse que j'avais fait dans le Donbass avec l'armée russe. Et donc l'ensemble, en quelques dizaines de minutes, en tout une heure et demie d'ailleurs, le temps de la discussion avec le public, on va essayer de dresser un peu un portrait de la Russie d'aujourd'hui, mais de façon un peu, ce sera pas une conférence quoi.
Vous disiez au début de votre réponse que c'était pour vous aussi une manière de trouver un autre moyen de parler de votre terrain de travail et de manière de raconter l'information. Est-ce qu'il y a d'autres besoins que vous avez ressentis de créer ce spectacle ? Peut-être aussi un besoin personnel d'évacuer un stress cumulé qu'on imagine que vous pouvez vivre sur place en tant que journaliste étranger ?
Oui, parce qu'il y a une certaine liberté à revenir dans son pays et à pouvoir raconter les choses comme on le souhaite, sans peser pendant 15 ans chaque mot qu'on veut utiliser. pas peser, enfin, je veux dire, peser de, ça, on le fait toujours pour utiliser les bons mots, pour décrire des choses, mais pas peser en ayant en tête un risque qu'on pourrait avoir à prononcer ces mots-là. Donc là, les champs libres, Rennes, c'est une sorte de bulle de liberté. Voilà, je sais que je vais pouvoir m'exprimer comme je le souhaite, que je vais pouvoir raconter tout ce que j'ai envie de raconter. Et ça, effectivement, c'est un soulagement total parce que c'est vrai qu'on parlait des informations et moi, je fais souvent face avant tout à des gens qui se retrouvent parfois à voilà, soutenir des idées que moi j'ai vu naître en Russie. Je sais qu'elles viennent du Kremlin, mais qui comprennent pas forcément la façon dont on travaille, la façon dont on récolte l'info, la façon dont on raconte les choses. Et c'est un peu une sorte d'éducation aux médias pour adultes, en fait, ce qu'on propose. Alors, je n'éduque personne, j'ai rien à apprendre à personne, mais c'est plus sous le format d'une discussion, en fait. Cette fois-ci, je vous raconte quelques histoires, et puis vous, en face, s'il y a des choses qui vous déplaisent, s'il y a des choses qui n'ont pas été claires, eh bien, moi, je suis prêt à y répondre et on en discute ensemble. Et c'est vraiment l'idée de ce rendez-vous.
Et est-ce que ça ne vous lasse pas un petit peu ? On parle un peu quand même de guerre d'information là, dans ce conflit-là, d'entendre, comme vous le disiez, le discours propagandiste russe répété parfois presque mot pour mot.
En fait, ça, on s'y habitue. Je sais que je suis là pour ça. Je sais pourquoi ils le prononcent. Et moi, une partie de mon travail aussi, c'est de contextualiser pourquoi ces gens me disent ces choses-là. Des horreurs, hein, parfois, hein, enfin, même souvent. Moi aussi, je regarde la télévision russe, en fait, comme eux. Et donc, je sais pourquoi ils me sortent tel ou tel vocabulaire, pourquoi ils me sortent tel ou tel argument. Je sais très bien d'où ça vient. Moi, ce qui me fait le plus mal au cœur, c'est pas les Russes, parce que ils vivent dans leur pays, ils vivent tout ça de l'intérieur. C'est quand je rentre en France, ou que par les réseaux sociaux, depuis la Russie, je fais face à des Français qui tiennent le même vocabulaire. Et là, pour moi, ils n'ont pas d'excuses. C'est-à-dire qu'on est en France, on a accès à des médias libres, on a accès à des journalistes, on est très rare, mais on a encore quelques derniers journalistes à Moscou qui travaillent de façon la plus indépendante possible pour raconter les choses. Et pour moi, il y a vraiment un blocage, quoi. Pour moi, ces gens n'ont pas d'excuses à contribuer à la diffusion de la rhétorique du Kremlin, rhétorique qui, par ailleurs, a mené à la guerre en Ukraine et donc à des morts, hein. La désinformation tue. Faut toujours le rappeler. Et je n'arrive pas à m'habituer à ça et je suis beaucoup moins tolérant face à des Français qui vont tenir un discours pro-Poutine qu'à des Russes qui sont, voilà, eux, c'est dans la logique des choses, quoi. Alors après, ça m'empêche pas de discuter avec ces Français pro-Poutine, mais c'est agaçant parce que c'est vraiment incompréhensible pour moi.
Quelles sont vos conditions de travail aujourd'hui en Russie en tant que journaliste étranger ? Alors, c'est des choses qu'on demande souvent et dont on a souvent la réponse, mais j'aimerais bien l'entendre de votre voix. Est-ce que c'est qu'aujourd'hui qu'être journaliste étranger à Moscou en 2025 ?
Oui, et en fait, c'est jamais inutile de répondre à cette question, pour être honnête, parce que ça évolue en permanence. En fait, on est très lié à la façon dont les autorités russes voient notre gouvernement français. Et par exemple, en ce moment, ils nous détestent. On est quasiment en première ligne des pays hostiles parce qu'on a un président qui prend une position assez forte dans le soutien à l'Ukraine, parce que les États-Unis ont fait un peu marche arrière. Et puis voilà, la France essaye un peu de réunir les Européens autour de l'Ukraine. Et donc les Russes nous ont vraiment en surveillance et font vraiment tout ce qu'ils peuvent en gros pour nous entraver dans notre travail. Donc on a beaucoup de difficultés aujourd'hui à aller travailler en dehors de Moscou, ce qui est problématique parce que la Russie, la vraie Russie, on va dire, elle est pas à Moscou, elle est en dehors de la capitale. Et puis tout simplement, moi là, au moment de ce rendez-vous au Champ Libre, par exemple. Je serai dans la capacité totale de vous dire si je serai en capacité ou non de retourner en Russie.
Merci beaucoup, Paul Gogo, d'avoir été avec nous au micro de Canal B. Je le rappelle, vous serez à Rennes le 14 novembre prochain pour jouer le spectacle Journal intime Bon papier de Russie au Champ Libre.
Merci.
On continue à fouiller l'actualité ensemble dans 3 en 1 avec Manon Potier qui est arrivée en studio. Vous vous souvenez peut-être d'une émission spéciale organisée mi-octobre sur notre antenne au sujet d'une mobilisation sans précédent des associations françaises. Tous secteurs confondus, les associations avaient dénoncé le manque de moyens et de considération de la part de l'exécutif. Et l'actualité continue de leur donner raison, n'est-ce pas Manon ?
Oui, dans son projet de loi de finances 2026, le gouvernement a annoncé une diminution de 1,7 milliards d'euros du budget dédié à la solidarité, l'insertion et l'égalité des chances, et de 300 millions d'euros pour la jeunesse, le sport et la vie associative. L'un des secteurs impactés par cette baisse annoncée de moyens, ce sont les dispositifs permettant aux enfants de partir en vacances, et notamment celui nommé Colo Apprenante. Kevin Boiveau, directeur régional de l'association Aro Even Bretagne, association d'éducation populaire, en témoigne.
Malheureusement, dans le projet de loi de finances 2026, là, il y a la suppression qui est prévue des vacances apprenantes, qui va venir supprimer une aide qui permettait de façon décisive de faire partir des jeunes en séjour de vacances. Au national, le dispositif vacances apprenantes, il faisait son effet, c'était 80 000 jeunes ou enfants qui étaient aidés par ce dispositif et il avait des critères qui étaient hyper intéressants parce qu'on était souvent sur du premier départ, on était souvent sur des jeunes pour qui l'aide vacances apprenantes était décisive. C'est pas une question vacances apprenantes, c'est pas s'il y a vacances apprenantes, c'est bien. C'est non, c'est s'il y a vacances apprenantes, on part en vacances, s'il y a pas vacances apprenantes, on ne part pas en vacances.
Ce dispositif des colos apprenantes fait partie de plusieurs dispositifs qui constituent le droit aux vacances. Ce droit, c'est considérer que chaque enfant a le droit de partir quelques jours en vacances en dehors de son lieu de résidence. Et c'est aussi considérer que le droit aux vacances ne doit pas être un privilège réservé aux familles aisées.
Ces séjours, ce sont aussi des espaces d'apprentissage et d'émancipation pour les enfants. Ils et elles peuvent y découvrir la vie en collectivité et c'est aussi un vecteur de mixité sociale.
Effectivement, en 2024, la Confédération Jeunesse en plein air, qui rassemble diverses structures spécialisées dans l'accès aux loisirs pour les enfants, a partagé le témoignage d'Amélie, la maman de Sohan, 14 ans, qui a pu partir en vacances grâce au dispositif Colo Apprenante. Elle y met en avant le projet pédagogique de la Colo qui permet aux enfants de participer activement à la préparation du séjour. Pour Amélie, c'était une belle opportunité pour son fils, qui a pu gagner en autonomie et en maturité. Avec la possible suppression de ce dispositif, c'est donc peut-être Nila, la sœur de Sohan, qui ne partira pas en vacances cet été, tout comme Karim, Mélissa et les 80 000 autres.
Et quand on parle de ces jeunes, de qui parle-t-on vraiment ?
Eh bien, selon Kevin Boiveau, directeur régional de l'association Aro Even, toujours les mêmes, à savoir les jeunes vivant dans des conditions précaires, dans des quartiers prioritaires, ou dans des zones rurales. Depuis 1990 pourtant, la Convention internationale des droits de l'enfant, ratifiée par la France, est entrée en vigueur. Par ce texte, la France s'engage à respecter et faire respecter les droits de l'enfant au repos et à partir en vacances. Or, en 2025, près de 5 millions d'enfants ne sont pas partis en vacances en France, et ce sera encore plus dès 2026 si la disparition de ce dispositif se confirme. Au-delà de la suppression du dispositif Colo Apprenante, un autre changement inquiète les associations d'éducation populaire.
En 2025 là, on s'est fait supprimer des dispositifs à l'échelle des communes directement ou des départements. Et du coup, ça fait du jour au lendemain une annonce auprès de 100 jeunes de dire « Désolé, l'année dernière, vous aviez une aide ». Aujourd'hui, c'est plus possible.
Ce que dénonce Kevin Boiveau, c'est aussi l'hypocrisie du gouvernement. D'un côté, le président de la République a désigné la santé mentale des jeunes grande cause nationale de 2025. Et d'un autre, il envisage de supprimer les dispositifs qui permettent aux jeunes de s'épanouir, de faire une pause, de se ressourcer.
C'est à contre-courant de tout ce qu'on entend et de tout ce qu'on voit sur la situation des jeunes et des enfants aujourd'hui. On est en train de s'enfermer dans une société où on identifie les fléaux, on identifie ce qui ne nous convient pas pour la société. Et pourtant, j'ai l'impression que tout ce qui se passe à la chaîne nationale et tout ce qui se passe dans les décisions politiques actuelles viennent juste conforter cette décision. Quand on parle de santé mentale, en fait, c'est maintenant qu'il faut agir. Si on veut que ça soit une priorité nationale, c'est maintenant qu'il faut agir. C'était une priorité nationale 2025. On est fin 2025 et c'est ça la réponse qu'on a ?
La suite des débats parlementaires nous dira si c'est effectivement la réponse que l'on aura. On le rappelle, le budget pour le dispositif Colo Apprenante a tout simplement été ramené à 0 euros dans le projet de loi de finances 2026, sans aucune annonce préalable auprès des associations qui œuvrent grâce à ces financements pour faire partir des enfants en vacances. Cette suppression a été accompagnée de l'augmentation de la taxation à 8% des activités sociales et culturelles des CSE qui aurait également pour effet de réduire les montants des chèques vacances à disposition des salariés. Sur ces réjouissances, eh bien, c'est l'heure pour nous de vous souhaiter un bon début de semaine. Profitez bien du jour férié de demain tant qu'ils existent encore. Aujourd'hui, l'émission vous était présentée par Nina, tout comme l'interview. Et à la chronique, c'était Manon Potier. Vous nous retrouverez en rediffusion dès demain 8h15, puis on se retrouve mercredi à 12h15. En attendant, bon appétit, bon lundi et puis bon après-midi.